Aline Chapuis, chanteuse à texte, musicienne, auteure, compositrice, a sorti son premier album, Un fil d'audace, qu'elle a verni en mars 2013 à Interface. Elle sort son deuxième album, À perdre haleine, vernissage le 11 juin 2016 au Balcon du Ciel à Nax. Elle est déjà passée sur nos ondes Alp Radio pour nous parler de son premier album et son parcours musical. Elle est venue nous parler du deuxième album et de ce qu'elle a fait entre deux, parce que c'est une personne qui ne peut pas rester 30 secondes en place sans rien faire au niveau artistique. Aline, salut. Beaucoup d'eau ont passé sous les ponts depuis notre première rencontre, à l'occasion d'un fil d'audace. Merci de nous faire le plaisir de revenir nous parler des éléments passés depuis notre première rencontre. Bonjour, comment tu vas?
Je vais très bien, salut.
Alors, il y en a de ceux qui auraient peut-être pas pu écouter le premier interview qu'on a fait en 2013. Est-ce que tu pourrais te présenter?
Ben, je suis Aline Chapuis, je suis artiste, je suis musicienne, auteure, arrangeuse, un peu hyperactive, effectivement. Enfin, j'ai plein d'envies artistiques et créatrices. Et je pense que comme j'ai attendu très longtemps avant de les réaliser, alors maintenant, ça me pousse. Voilà,
Les idées fusent.
les idées fusent, ouais. Je sais pas, elles sont peut-être pas toutes bonnes, mais en tout cas, elles fusent.
On va faire une petite rétrospective avant de parler de ton album actuel. Donc la période Un fil d'audace, le commencement de cet album. Comment est arrivé cet album?
Alors cet album, il a commencé, le projet a commencé en 2009, et puis j'avais en fait, ça fait très longtemps que j'écris. Et j'avais des textes que je voulais mettre en musique. Et en 2008, je crois, j'ai rencontré Stéphane Bourgeot, qui a été mon guitariste sur ce projet Un fil d'audace pendant plusieurs années. Et c'est en 2009 qu'il a écrit les musiques des deux premières chansons. Et puis après, la machine s'est mise en route et s'est plus jamais arrêtée.
Et donc, cet album a été verni, tu l'as fait beaucoup de fois en concert. Entre-temps, est-ce que tu pourrais parler un petit peu de l'accueil du public par rapport à cet album et des impressions? C'est une question vraiment pas facile à répondre, certes, mais j'aime bien poser des petites colles comme ça. Donc, l'accueil du public.
Alors, l'accueil du public, je dirais bon globalement. Après, bah, c'est des publics qui sont c'est pas forcément des grands publics, mais c'est intéressant de voir comment les gens ils accueillent les choses. Les gens étaient souvent aussi interpellés par les thématiques que j'aborde. Ils trouvaient des fois que c'était difficile, que c'était des thèmes pas rigolos. C'est vrai qu'il y a des fois des gens qui me demandent quand c'est que je vais faire des chansons drôles. Je leur dis que je ne sais pas faire des chansons drôles, mais que s'ils écoutent bien, en fait, il y a toujours des trucs positifs dans mes textes. C'est vrai que l'autre chose qui revient très souvent, c'est l'aspect poétique de l'écriture. Et puis ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Et avec le deuxième album, sont venus s'ajouter d'autres qualificatifs qui m'ont bien plu. C'est des choses comme onirique ou hypnotique. Et c'était particulièrement très fort à la création du deuxième projet, puisqu'on avait un décor qui a encore renforcé en fait le côté onirique et hypnotique. Mais on peut en reparler après de ça.
Tu parlais des textes, de la poésie de tes textes. En fait, est-ce que certaines personnes ont interprété différemment ce dont tu parlais? En fait, toi, tu as une idée bien précise des textes, tout en faisant des textes poétiques. Des fois, pas facile pour le commun des mortels, on dira, de comprendre ou de suivre ta route. Comment ont été interprétées tes paroles, en fait?
Alors c'est vrai que dans le premier album, au début en tout cas du projet, il y avait certaines chansons pour lesquelles c'était très important pour moi que les gens y comprennent bien ce que je voulais dire. Un peu comme si je voulais passer un message. Ou peut-être plutôt parce que je ne pense pas que je suis une chanteuse militante qui veut passer des messages militants. Mais par contre, il y avait certaines chansons où je pense que j'avais besoin vraiment d'être entendue dans ce que je voulais dire. Alors c'est vrai que quand les gens n'ont pas compris mon écriture comme j'aurais souhaité qu'elle soit comprise, dans un premier temps, ça m'a pas vraiment plu. Puis je me disais, mais c'est pas possible, quoi, pourquoi ils comprennent pas? Jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui a compris mon texte d'une manière différente de ce que j'attendais, mais en fait, ce qui m'a reflété, c'était vraiment très positif et c'était un sens qui faisait aller le texte ailleurs, mais c'était presque mieux que où moi j'avais imaginé le faire aller. Ça m'a quand même interrogé beaucoup et c'est là que j'ai compris qu'en fait mes textes m'appartenaient pas. à partir du moment où je les offre, c'est vrai que c'est moi qui les ai créés, j'y mets quelque chose, mais à partir du moment où je les offre à d'autres gens, bah en fait, ces autres gens, ils s'en emparent et puis ils y mettent leur vie, leurs émotions, je sais pas, leurs sentiments, leurs images, et puis qu'en fait, c'est bien.
En fait, ce serait, tu leur donnerais en quelque sorte l'outil qui leur permettrait de bah, peut-être de se retrouver face à soi-même, mais d'une manière différente. Les textes seraient peut-être l'outil pour ces personnes-là qui se reconnaîtront peut-être dans une chanson ou une interprétation qu'ils font d'une de tes chansons.
Alors oui, c'est vrai que dit comme ça me plaît bien. Oui, je pense que ça peut être vraiment ça. Et puis autrement, simplement de les faire voyager ou de les faire rêver ou de les faire se créer leurs propres images, sachant aussi que l'image, je réalise que c'est quelque chose qui prend toujours plus de place en fait dans mes idées créatives. Et puis aussi dans mon écriture, où j'essaye d'écrire par image. Après, c'est vrai qu'une autre chose qui m'a été reflétée, mais ça c'est plus récent, c'est plusieurs personnes qui m'ont demandé, et c'était très fort au vernissage en fait, le 11 juin à Nax, qui m'ont demandé si j'avais jamais imaginé de faire paraître un livre avec mes textes. Et ça m'a fait plaisir, puis en même temps, ça m'a fait un peu peur, parce que je me suis jamais considérée comme un écrivain ou comme une poète, mais en même temps, il semblerait que pour certaines personnes, le texte seul pourrait tenir dans les pages d'un livre. Alors, on verra, peut-être que je vais le faire.
Ce serait une sorte, en quelque sorte, un livre de recueil pour toi, avec ces images que tu voudrais faire passer, avec des textes.
Alors, ça pourrait être un livre de recueil, ça pourrait aussi être l'opportunité de faire paraître des textes que je vais jamais mettre en musique, soit parce que ils sont pas chantables, parce qu'une chanson et une poésie, c'est quand même deux choses un tout petit peu différentes. Soit parce que c'est des textes de la prose en fait. Et c'est vrai que je crois que j'imaginerais pas, si un jour il y avait un recueil qui paraîtrait, j'imaginerais pas ce recueil-là sans qu'il y ait des photos à l'intérieur ou qu'il y ait des dessins. Je pense qu'il y aurait peut-être même un dialogue entre des images et mes textes. Si possible, une image qui illustre pas exactement ce qui est dit dans le texte, parce que ça, ce serait un peu répétitif et ça n'irait pas. Mais je sais pas, c'est des idées que j'ai.
En même temps, les textes seraient rien sans l'accompagnement musical aussi. On est d'accord? Enfin, rien, on se comprend, hein, mais est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des gens qui t'ont entouré pour ce premier album? Tu as parlé du guitariste, mais...
Pour le premier album, il y avait effectivement Stéphane Bourgeois à la guitare, Igor Chimek à l'autre guitare, et puis Aude Follonier au piano. Ça, c'était le trio, enfin le quatuor avec moi de base. Et puis, quand on a enregistré l'album, il y avait encore Tidoz à la percussion et puis Johnny Marietto à la contrebasse et à la basse. Et puis, l'évolution a fait qu'à un moment donné, les deux guitaristes avaient des projets personnels aussi. Ils n'étaient pas forcément partis dans l'aventure. En tout cas, ils n'étaient pas partis pour être le pilier fondateur du projet. Et puis, avec Aude, on a eu envie, en fait, de créer un duo de filles. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a fait quelques concerts en duo. Et puis, on a commencé à réfléchir à ce deuxième projet. Et puis, finalement, on est un duo de filles avec un saxophoniste garçon. Et puis, c'est très bien aussi.
Justement, tu parles du deuxième projet,
Oui.
donc deuxième album que tu as sorti assez récemment, donc hein, en mars 2013, il a été verni. Pardon,
En juin.
je me suis trompé de
Juin,
ligne. En
voilà,
verni,
en juin
en juin
2016.
2016, il a été verni au Balcon du Ciel à Nax, donc un endroit quand même assez particulier. Alors justement, en parlant d'endroits particuliers, hein, tu aimes toi les endroits particuliers pour y jouer?
Oui, j'aime les endroits particuliers, mais pas forcément au début. Je ne pensais pas que je jouerais dans des endroits particuliers. Au début, je pensais que je jouerais dans tous les cafés, théâtres. C'est qu'il y a de la chanson française. Enfin, en fait, je crois que je n'avais pas mesuré la difficulté de l'aventure dans laquelle je m'embarquais. Finalement, bah, qu'il suffit pas d'avoir des jolies chansons pour que toutes les portes s'ouvrent et qu'en fait, il y a beaucoup de monde et qu'il y a beaucoup de critères ou de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour être programmés dans une salle. Et je pense que ça a aussi été un élément qui m'a fait tout d'un coup me retrouver, enfin, à un moment donné, j'ai cherché des endroits Et puis j'ai réalisé qu'effectivement, de jouer dans des endroits particuliers, ça amène quelque chose. En plus, enfin en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît. Peut-être que c'est aussi ça te met un peu en dehors de ta zone de confort. Il faut ouais, s'adapter à un certain nombre de choses. Et maintenant, c'est vrai que j'ai décidé d'encore plus, on va en reparler, je pense, dans un moment, mais encore plus accentuer, on va dire, le côté endroit particulier avec mes idées pour la suite. Mais c'est vrai que Nax, c'est un endroit où je voulais jouer, donc j'étais très heureuse de pouvoir vernir mon album à cet endroit-là.
Donc, tu as verni ce deuxième album À perdre haleine là-haut au balcon du ciel. Comment est-il arrivé ce deuxième album? Si tu pourrais nous en dire plus.
Alors, ben, à un moment donné, j'ai décidé que je voulais faire un deuxième album. Donc, j'ai commencé à écrire des textes durant, on va dire, le début de l'année 2014. Et puis, durant l'été 2014, on a commencé à, ben, j'ai commencé à travailler, j'ai fait les compositions. Et puis ensuite, j'ai donné à ma pianiste les textes avec le squelette de la composition. Et elle a commencé à chercher au niveau des arrangements. Elle a fait un stèle qui était plutôt la maître d'œuvre des arrangements. Et puis après, à la fin, des fois, je lui disais non, mais ça va pas, j'aimerais qu'on fasse autrement. Et puis on confrontait nos idées. Puis assez rapidement, alors on était parti pour faire des choses au duo, on s'est dit ouais, mais piano-voix, c'est quand même pas évident d'étoffer puis de donner de la matière. On savait qu'il y aurait aussi le décor. Assez rapidement est venue l'idée de la création avec le décor. Et puis on a commencé à réfléchir à quel instrument pourrait être le troisième. Alors on s'est dit contrebasse, on s'est dit violoncelle. Et puis en fait, moi j'avais vu un spectacle à Paris. Enfin, c'est un spectacle que j'ai vu plein de fois parce que c'est une de mes amies qui a créé un spectacle de théâtre autour du personnage de Griselidis Réal, qui était peintre, prostituée et écrivain à Genève. Et puis j'avais été voir ce spectacle à Paris et là il y avait une saxophoniste femme qui jouait dans le spectacle. Puis je me suis dit, mais en fait, le saxo, c'est extraordinaire parce que c'est quelque chose qui est extrêmement, c'est un instrument extrêmement humain. Au niveau du son, au niveau de la sonorité, pour moi, il y a quelque chose de très proche de la voix humaine. Et puis, comme j'étais dans mon idée de décor, de nature dans le théâtre, j'ai réalisé qu'on pouvait faire des bruitages de vent et de choses comme ça avec un saxophone. Donc, je suis revenue vers Aude en lui disant, et si on cherchait un saxophoniste? Et puis, comme elle vient du monde du jazz, puis que le saxophoniste, c'est aussi un instrument qu'on trouve beaucoup dans le monde du jazz, elle m'a dit, ah ouais, puis ça, en plus, c'était original. Parce qu'un trio piano-voix-saxophone dans le monde de la chanson francophone, c'est pas extrêmement répandu. Donc, on s'en est parti là-dessus. Puis après, on est parti à la chasse au saxophoniste. Et puis, à la fin de l'été 2014, on l'avait. Et là, on a commencé à travailler à la création du spectacle. À Noël 2014-2015, on a fait une résidence où on a travaillé avec le vidéaste. Et puis c'était toute une aventure ce spectacle parce que je me suis retrouvée à faire de la scénographie alors que j'avais jamais fait de la scénographie, à faire des maquettes de décors alors que j'en avais jamais fait, que je suis nulle en calcul, mais tout d'un coup j'arrivais à faire un plateau de théâtre dans un carton à chaussures avec un décor, avec un piano, le tout à l'échelle et ça fonctionne. Enfin c'était assez marrant quoi d'oser faire des trucs que je n'osais pas faire. Et puis en mars 2015, eh bien on a créé 4 soirs ce spectacle qui s'appelle Tomber encore à perdre haleine, avec ce décor où en fait on a reconstitué une forêt, des fois il y avait de la rivière aussi, ou un chemin, avec de la vidéo, avec du mapping vidéo à l'intérieur du théâtre, sur des immenses décors qui faisaient 5 mètres de haut. Enfin, c'était un truc assez énorme. Et puis, moi, je naviguais en fait à l'intérieur de ce décor. Et ce spectacle a été enregistré donc visuellement, mais il a aussi été enregistré au niveau audio. C'est un peu un truc qu'on a décidé à la dernière minute. J'avais un très bon ingénieur du son qui s'appelle José Gaudin. Tout d'un coup, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'enregistrer les spectacles? Il m'a dit oui. Et puis je me suis retrouvée à la fin de cette aventure de spectacle avec tous les soirs enregistrés. Et là, je suis partie à Paris avec mes bandes dans un studio qui s'appelle Studio Malambo, qui est tenu par un de mes amis qui s'appelle Louis Rigoux, qui est un Argentin qui a créé cet espace de création à Paris. Et puis, avec son ingénieur du son, qui s'appelle Laurent Compigné, ben, ils ont commencé à travailler. Enfin, ils ont déjà regardé si les bandes étaient utilisables. Ils m'ont dit qu'elles l'étaient. Ils ont fait un travail de nettoyage de bandes absolument hallucinant. Et puis, ils ont fait le mixage et le mastering de l'album. Et depuis septembre 2015, en fait, j'avais mon album masterisé. Puis après, il a fallu juste un tout petit peu de patience pour remettre un peu de sous de côté pour pouvoir ensuite faire la pochette. C'est Pauline Lugon de Sion qui a fait la pochette. C'est elle qui a fait tous les visuels de mes projets depuis le début. Et puis au printemps 2016, ben, il est arrivé et on l'a verni le 11 juin.
Eh ben, ceci expliquant cela, hein, parce qu'en écoutant ton album, ben, on entend des applaudissements, enfin, on sent que c'est du live. Donc, c'était vraiment ces enregistrements-là de ton projet entre les deux albums.
Exactement, c'était vraiment cet enregistrement et puis c'était génial quoi qu'on ait réussi à en faire un album.
Y avait des chansons enregistrées en studio aussi dans cet album, ou bien c'était vraiment que du live?
Y a rien. La seule chose qui a été réenregistrée en studio, c'est dans le deuxième morceau de l'album. Il y a un petit instrument assez cristallin qui s'appelle un likembe. Et en fait, à l'enregistrement live, le micro du likembe a pas fonctionné correctement. Et en fait, il n'y avait que le likembe dans mon micro-voix. Donc, il était très faible. Et puis, comme c'était vraiment un des éléments centraux de ce morceau, alors là, grâce à la modernité, en fait, le studio de Paris a envoyé au Roy Stone à Chara les bandes de ce qu'ils avaient déjà fait. Moi, je suis allée au Roy Stone avec Yo-Yo Vergère réenregistrer mon likembe. Et puis Roy Stone a tout renvoyé à Paris et puis ça a été fait comme ça quoi.
Alors pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas tout du tout, hein, c'est comment un likembe?
Un likembe, c'est un instrument africain qui en Afrique est fait dans des petites calebasses avec des lamelles en métal. Et puis le mien, je l'ai acheté chez Thomann en Allemagne, donc il n'est pas du tout africain. Et puis c'est un cercle en bois avec une peau qui est tendue dessus et puis ces petites lamelles en métal. Et puis si tu veux, je te montre.
Ah oui, volontiers, on regarde après. Bah aussi des endroits particuliers, des instruments particuliers. Franchement, il n'y a pas beaucoup de monde que je connais qui ont réussi à mettre du likembe dans leurs chansons. Franchement, bravo. Pourquoi ces instruments uniquement à cause du son, ou bien parce qu'ils ont pour toi une signification spéciale?
Les deux, je dirais. Le likembe, c'est vrai qu'il y avait une histoire particulière qui me liait à cet instrument. C'est qu'à un moment donné, j'avais fait tout un travail en musicothérapie. Et puis, la première séance de musicothérapie, j'avais dû choisir un instrument parmi tout plein et j'avais dû jouer mon prénom. Et en fait, j'avais choisi cet instrument-là. Et puis, je ne sais pas, après, je m'en suis acheté un. Hein. Et j'ai un immense tambour aussi qu'on a utilisé sur scène, qu'on entend dans un des derniers morceaux, et puis qui est une reproduction en fait de tambour chamanique, mais qui est pour le moment pas un tambour fabriqué par moi, je l'ai acheté. Ouais. Donc c'est le son, puis des fois c'est l'histoire hein, qui me lie à l'instrument. Elle m'a dit que dans le ciel, il y avait sûrement quelqu'un qui sur moi étendait son aile d'ange, d'ange gardien. Elle m'a dit que quelque part, il y avait un endroit pour moi, un lieu de paix au pied du phare, dans le vent, un tambour qui bat. Qu'il ne pouvait pas écouter mon chagrin ce soir. Je suis restée seule dans le noir, il s'est enfoui au fond de moi. Il m'a dit qu'il me souhaitait un jour de l'aimer vraiment, d'être libre de le laisser vivre ses joies sans mes tourments.
Un autre voulait que je mente pour laisser l'ombre se parer des étincelles de l'amante qui ne sera jamais déclarée. Et celui-là qui me disait que pour aimer il fallait faire des secrets sous le cerisier que seul éloignerait mon père. J'essayais de voir un peu s'il y avait quelqu'un dans le ciel qui voudrait poser sur mes yeux sa paume douce au goût de sel. J'ai laissé vibrer dans mon ventre la pulsation de son tambour. Ses notes frêles de soufflet d'ambre, papillon bleu, graines de velours. J'ai repris le chemin de mousse, me suis couchée dans le sous-bois. J'ai laissé remonter la frousse qui me laisse dresser aux abois. J'ai senti le vide et le froid, j'ai pédalé loin en enfer. J'ai escaladé la paroi qui nous sépare depuis hier. Dessous ma tête, l'écume me retient doucement. Elle est mon alliée secrète, je joue avec ses filaments. Je sens gronder au fond du cœur la force sauvage de mon sang, rouge m'enivrant comme une liqueur dans un silence assourdissant. Et si enfin, je pouvais tournoyer sans fin. Et si enfin, je pouvais tournoyer sans fin. Et si enfin, je pouvais tournoyer sans fin. Et si enfin.
Alors, moi j'ai eu une sorte de coup de cœur en écoutant ton album, la piste 10. Quelle langue ?
La piste 10, qui est...
Pourquoi en espagnol ? Est-ce que c'est un coup de cœur ? Est-ce que c'est simplement parce que ça sonne bien ou tu, je sais pas.
Alors, en fait, j'ai chanté en espagnol à d'autres moments, dans d'autres projets, mais des reprises de chansons sud-américaines, entre autres. Et puis, c'est vrai que j'aime bien. Cette langue, et j'aime bien la chanter. Puis là, en fait, l'idée, c'est que j'avais écrit le texte en français, et puis je me suis dit, il faut que je trouve une idée pour développer en fait ce morceau. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, si je le traduisais en espagnol, puis que je le disais une fois en français, une fois en espagnol, qu'est-ce que ça donnerait ? Donc là, j'ai demandé à un de mes amis qui s'appelle Marcelo García Martín de traduire le texte en espagnol, parce que moi je ne parle pas espagnol, donc je n'étais pas capable de faire la traduction moi-même. Et puis après, de m'aider aussi pour que je prononce pas trop mal. Alors, j'ai encore une grande marge de progression au niveau de la prononciation. Mais en fait, ce qui est très rigolo, c'est que Marcelo, il est uruguayen. Ce qui fait que la prononciation, c'est pas comme en Espagne. Puis il y a des gens qui me disaient, mais pourquoi tu prononces comme ça? Même des Espagnols qui m'ont dit, mais c'est bizarre cette prononciation. Et puis moi, j'aime bien quoi, que ça donne. Ça donne comme ça, et c'est aussi une chanson que j'aime beaucoup dans cet album.
Et c'est pour ça alors que ça m'a pas tout de suite tilté que c'était de l'espagnol, parce que j'ai dû vraiment tendre l'oreille pour me dire est-ce que c'est de l'espagnol ou pas? Alors j'ai compris maintenant pourquoi.
C'est de l'espagnol prononcé par quelqu'un qui ne parle pas l'espagnol. Voilà. Chaque note tisse un fil de soie et nous retient dans l'air du soir. Il n'y a rien à voir. Le sable coule au creux de mon dos, ses fables foulent le feu de ma peau. Sa pupille douce qui frémit sous la lune au cœur de la nuit, il n'y a rien à dire. Le sable coule au creux de mon dos, ses fables foulent le feu de ma peau. C'est comme un matin de première fois, quand nos deux mains font un petit toit pour protéger nos cœurs de la pluie, pour protéger nos âmes éblouies. Le sable coule au creux de mon dos, ses fables foulent le feu de ma peau. Je me vais de feuillets de mousse et je mêle à l'herbe qui pousse ma chevelure rousse. Le sable coule au creux de mon dos, ses fables foulent le feu de ma peau. Chaque note tisse un fil de soie et nous retient dans l'air du soir. Il n'y a rien à voir. Le sable coule au creux de son dos, mes fables foulent le feu de sa peau.
Deuxième album, hein, donc À perdre haleine, dont on parle maintenant. Parle-moi un petit peu de la pochette. Il y a des photos toujours un peu surprenantes sur tes albums. Déjà sur le premier, Un fil d'audace, où tu étais dans une pose en portrait qu'on n'arriverait même pas à définir dans quel état d'esprit tu étais. Et puis là, tout d'un coup, bah, on te voit couché sur un caillou. On te voit, tu pourrais nous en dire plus?
Très volontiers. Ben, là, je pense que la première chose qu'il y a à dire par rapport à l'aspect des images, c'est que je suis quelqu'un qui aime énormément la photographie. Ce qui fait que j'essaie toujours de trouver des photographes qui font qui ont des univers ou qui font des images qui me plaisent. Et puis, pour ce deuxième album, enfin, en fait, pour le projet de spectacle, je me suis adressée à Aline Fournier, qui est aussi connue sous la Fouinographe, donc qui est une photographe qui habite la région de Martigny et qui fait un travail qui me plaît énormément. Donc en septembre 2014, on avait fait une série de photos en milieu naturel. On était à Vendon-Haut, c'est en dessus de Salvon, dans la vallée. Et on a passé une matinée à faire des photos dans différents endroits de ce vallon. Y compris des photos dans l'eau très froide, des photos sur un mur très... Enfin voilà, on a fait tout un tas de photos. Et puis, ces photos, elles ont servi au visuel du spectacle, donc pour faire l'affiche. Et puis, quand on a décidé de faire l'album, Moi, j'ai donné toutes ces photos à la graphiste. Et puis, effectivement, en fait, effectivement, elle a choisi des photos de quelqu'un d'autre. Parce que je lui avais donné ces photos-là, mais je lui avais aussi donné des photos qui avaient été faites en live pendant le spectacle par Yvon Pitlou, qui est un photographe amateur, mais éclairé, et qui fait des très belles photos de scène, à qui j'avais demandé de venir pour ça. Et elle a choisi pour la pochette, pour le livret, des gros plans, des extraits en gros plans de photos de scène.
Il y a entre autres ton visage qu'on voit en partie,
Voilà,
c'est juste, hein.
exactement. Il y a mon visage, il y a les musiciens, mais il y a aussi des détails du décor. Et puis, moi, je lui avais. Enfin, au départ, je ne voulais pas forcément revenir sur quelque chose avec le portrait en gros plan. Et puis, il y avait quelques images que je lui avais données qui ont été faites par David Godin. Et David Godin, c'est le vidéaste avec qui j'ai travaillé pour le spectacle. Et il avait fait quelques images une fois qu'on était allé travailler dans la Borgne à Bramois. Et il avait aussi fait des captures d'écran de parties du mapping vidéo. Et puis, en fait, j'ai donné ça à ma graphiste. Et elle a choisi, en fait, elle a fait un montage pour la pochette de l'album avec une photo de David et une superposition, en fait, avec ses captures d'écran, donc qui sont des extraits de ce qu'il a utilisé pour faire le mapping vidéo. Ce qui fait que dans le premier projet de pochette, il n'y avait plus aucune photo d'Aline Fournier. Et puis moi, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Il faut qu'il y en ait une. Et dans les photos qu'Aline avait faites, effectivement, elle a fait des photos de moi où je suis couchée sur un caillou. Et ces photos, j'ai l'impression d'être couchée sur la Terre, mais presque sur la planète Terre, enfin, parce qu'il y a dans la photo une sorte d'arrondi au fond. Et puis à un moment donné, j'ai dit, mais cette photo, il faut qu'elle soit dans la pochette. Pour moi, ça avait vraiment du sens avec tout le projet. Et c'est comme ça que quand on ouvre la pochette de l'album, eh bien, il y a cette photo où je suis couchée sur la surface de la Terre.